10h22 minutes dans le Point de Max à Boulevard. On me fait remarquer via le Twitch et par texto. Je parlais de sport. Puis je vous parlais des Islanders de New York, semble-t-il, que j'ai dit les Islanders de Charlottetown. On a parlé pas mal de LHJMQ dans les dernières heures, entre autres hier, ce matin. Dossier intéressant de Michael Lalancette dans Le Soleil. Fait que vraisemblablement, ma tête est encore dans la LHJMQ. Je vous ai parlé des Islanders de Charlottetown, alors que je voulais vous parler des Islanders de New York. Puis là, en plus, j'ai même plus l'excuse qu'on est lundi matin. Fait que c'est juste une excuse de « je me suis couché un peu trop tard hier, puis je me suis trompé, ça arrive ». Merci aux gens qui ont pris la peine d'écrire. Il y a des erreurs pires que d'autres dans la vie. Celle-là, je le qualifierais d'erreur sympathique. Parlant de sympathique, le très sympathique André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel des de direction des écoles, est en studio. Monsieur Bernier, bonjour.
Bon matin.
Je trouvais intéressant de vous parler aujourd'hui de deux dossiers distincts. Je vais commencer avec celui-là. Là, parce que on parle souvent du fait que manque d'argent dans les écoles, ou du moins manque d'argent à mettre aux bonnes places. Puis on avait parlé d'ailleurs la dernière fois ensemble. On a des enveloppes qui sont pas utilisées, qu'on aimerait prendre l'argent de ces enveloppes-là pour mettre l'argent ailleurs. On peut pas le faire, ça. Mais bref, c'est Radio-Canada ce matin qui nous apprend qu'une somme de 11 millions de dollars sera mise à la disposition des centres de services scolaires pour offrir de l'accompagnement, du mentorat, de la formation aux nouveaux enseignants. J'imagine qu'on voit une nouvelle comme ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais j'aime l'expression que vous avez utilisée, « nous apprend ». Effectivement, nous aussi, on l'a appris par Radio-Canada. Donc, on est dans les principaux touchés parce que c'est nous qui allons mettre ça en place. Puis, on l'a appris en même temps que vous par les médias. Ça, c'est un peu plus ordinaire, mais c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut faire attention, 11 millions pour l'ensemble des centres de services.
C'est pas beaucoup.
Bien, c'est 152 000 $ approximativement. Là, on sépare le 72, là, puis ça donne à peu près 152 000 $ par centre de service. C'est-à-dire l'équivalent de deux ressources peut-être à temps plein d'ici la fin de l'année par centre de service. Fait que vous comprendrez là, que ce n'est pas énorme, mais en même temps, là, on se dit, OK, on est en janvier, bientôt février, il faut trouver des gens, parce que les gens qu'on va libérer ou les sommes qu'on va utiliser pour le mentorat, les gens qui vont faire ça, ben, faut libérer de leurs tâches. Il faut trouver d'autres enseignants.
Parce que ce qu'on dit, c'est que l'argent va pouvoir servir à payer des profs plus expérimentés ou même des retraités pour offrir cet accompagnement-là aux plus jeunes. Est-ce que c'est une pratique qui est bien courante?
C'est une pratique qui est courante de libérer. C'est le fonctionnement qu'on a. Par contre, le côté d'utiliser des retraités, ben, ça fait que c'est beaucoup plus coûteux puis qu'on a moins de services, pas dans la classe, mais en termes de fréquence, parce que quand la personne nous coûte 500 $ par jour au lieu de 250, c'est pas le même ratio là, qu'on va avoir au bout de la ligne. Fait qu'il y a ça, que les centres de services vont peut-être dire, ben on va aller moins du côté des retraités, plus du côté des plus jeunes enseignants qui peuvent venir faire de la suppléance. C'est à voir, mais c'est quelque chose qui s'ajoute pour les directions en cours d'année. Il y en a qui diront peut-être, ben oui, vous avez le temps. Je vous dirais que les directions sont très, très occupées. Fait que quelque chose comme ça qui arrive en cours d'année, oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est comme un cadeau de grec.
Et pourquoi c'est important, ce mentorat-là qui peut être fait aux jeunes profs qui arrivent? T'sais, c'est quoi l'impact réel de ça?
Le mentorat, ça donne de très beaux résultats. On l'a vu, nous, là, dans le passé. C'est important parce que les jeunes qui arrivent, on a presque 50 % qui quittent là, dans les cinq premières années. Fait que, si on veut les garder, leur faire un bel accueil dans les écoles, puis je dis pas dire des beaux bonjours, là, mais réellement une structure pour les accompagner, pour leur donner du coaching, s'assurer que tout se passe bien, c'est important de mettre ça en place parce qu'en même temps, la formation initiale, on le dit, nous, comme association, faut revoir ça. Ça date de 1996-98, le bac actuellement, puis ça n'a pas tant été revu. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui est à remettre au goût du jour, puis qu'on se bat pour ça, mais que les universités ne le changent pas. Fait que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ont des lacunes, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que c'est ce qu'ils ont appris. Donc, le mentorat sert aussi à ça, à s'assurer qu'ils ont un bon accompagnement autour d'eux pour que les interventions qu'ils font soient les bonnes, les méthodes pédagogiques sont les bonnes. Donc, c'est très, très important.
Je veux pas qu'on chiale pour chialer, mais c'est une question que j'ai quand même envie de vous poser, M. Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Là, c'est un 11 millions qui a été négocié, qu'on va mettre là-dedans, là, dans l'offre de l'accompagnement du mentorat, formation de nouveaux enseignants. C'était-tu vraiment là le besoin le plus criant? Puis, je comprends, on aimerait plus que 11 millions, puis il y a bien des places, là. Mais quand on regarde ça, oui, on est content, on chialera pas assurément. C'était-tu la meilleure place où mettre ces 11 millions-là?
C'est une maudite belle place. Je vais faire attention à mes mots, là. C'est une très belle place, okay, réellement pour le mettre parce que, un, on a de la misère à avoir des gens. On a de la misère à les garder. Donc, au moins, en mettant ça en place, ça va nous permettre là, un peu là, d'enrober le tout pour justement leur mettre des meilleures conditions à l'entrée là, en fonction. Et tous les NLQ non légalement qualifiés, ben ça va donner un gros coup de main là, par rapport à ça si on est capable de trouver des suppléants pour libérer des gens.
C'est intéressant, ça, les non légalement qualifiés. J'imagine qu'auprès d'eux, cet accompagnement-là vaut encore plus de l'or.
Ah oui, on va dire c'est du platine, le rendu là, parce que eux, bien souvent, c'est « OK, comment je corrige? Comment j'évalue? Comment je planifie? » Tu sais, il y a un grand bout qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas juste la gestion de classe, là, il y a tout ce qui entoure. Là. C'est quoi un job de prof? C'est pas parce qu'on en a vu un, qu'on en connaît un, qu'on sait nécessairement tous les tenants et les aboutissants là, du travail qu'il y a à faire en classe. C'est un gros travail.
Dans Le Devoir maintenant, autre dossier, on peut lire que de plus en plus d'écoles de la province annulent des sessions d'examen qu'on dit maison, notamment en fin d'année, pour augmenter le temps d'apprentissage offert. En français, là, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le changement qu'on est en train de voir dans notre système scolaire à ce niveau-là?
Le changement qu'on voit, c'est que, pour ceux qui l'ont vécu, là, on avait souvent une session d'examen, admettons, en novembre, une autre en février, puis une à la fin de l'année. Celle à la fin de l'année, plus longue à cause des examens du ministère, bon, tout ça. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que souvent, quand il y a des gels de cours comme ça, admettons qu'il y a un examen l'après-midi, des fois, le matin, l'après-midi, les élèves n'avaient pas d'école. Donc, oui, en travaillant comme ça, on ne respecte pas le 180 jours de classe. Donc, le protecteur de l'élève est venu dire, ben, faut respecter 180 jours de classe. Le ministère est ressorti l'an passé, au mois de mars environ, en disant, faut respecter 180 jours de classe. Donc, on est en train de revoir ça, tout ce fonctionnement-là, pour dire, OK, si on a un gel de classe, ben, qu'est-ce qu'on peut faire l'après-midi pour garder les élèves en classe puis avoir le 180 jours? Ça, c'est pas parce qu'on fait quelque chose non plus que ça veut dire que l'élève va être en classe à ce moment-là, parce qu'il peut dire, bien, j'y vais pas, j'ai eu mon examen, je suis fatigué, je reste à la maison. Puis, il faut aussi se dire que les examens du ministère s'étendent sur une longue période. Pour la prochaine, cette année, à la fin de l'année, le premier examen, c'est le 10 juin. Bien, vous comprendrez que le 10 juin, admettons que c'est histoire, d'avoir des cours d'histoire après que l'examen du ministère ait lieu, les élèves, là, pas sûr qu'ils vont être très, très présents ou très intéressés. Il y a beaucoup de casse-tête à faire par rapport à ça. Pour les directions, c'est une grosse job, mais pour le personnel aussi, c'est de réfléchir. OK, je donne mon examen à une période, puis deux périodes après, j'ai un autre groupe qui a passé, ils ont le temps de se parler, ils vont-ils avoir du plagiat, ils vont-ils s'être dit les réponses? Il y a plein de facteurs à analyser.
Oui, c'est ça. Puis je m'en allais justement là. On dit que c'est une décision qui vient complexifier le travail des enseignants, que ça augmente le risque de plagiat. Ça fait vraiment partie du casse-tête.
Ah oui. On peut pas se dire que c'est inventé, que ça n'existe pas. Là. Il s'agit d'avoir une pause entre deux cours qui sont capables de se donner les réponses.
Ah, ça fait pas longtemps que je suis sorti de l'école. Il y a même pas 10 ans, j'étais encore au secondaire, puis je sais comment ça marche. Là. Il suffit, en effet, le groupe qui a un examen à la période 1 croise le groupe qui a le même examen à période 2 pendant la pause de 10-15 minutes, là, ça jase pas de météo puis de qu'est-ce que tu fais à soir, là, ça se passe les réponses puis les questions. La solution à ça, puis c'est là que ça vient ajouter une lourdeur de travail à l'enseignant, c'est de faire plusieurs versions. T'sais, on sait déjà à quel point nos profs y en ont ses épaules. De devoir, si ça devient la norme, de devoir avoir 3, 4, 5, 6 versions d'examen, je suis pas sûr que c'est bon en bout de ligne.
Bien, là, il y a le bout où l'intelligence artificielle peut peut-être donner un coup de main aux enseignants en disant « Voici ma première version, es-tu capable de m'en créer 3, 4, 5 versions? »
C'est intéressant, ça.
Pour justement faciliter. C'est possible de le faire. est-ce qu'on va aller là? On verra. Actuellement, il y a beaucoup de centres de services qui sont en train de regarder pour dire, OK, admettons qu'on a un examen le matin, bien, l'après-midi, on va donner de la récupération, de l'accompagnement pour les élèves qui ont plus de difficultés. Donc, il va y avoir des classes, mais adaptées selon les groupes de besoins, des choses comme ça. Il y a différentes réflexions qui se font, mais s'il y avait des centres de services qui disent « Non, ça, nous, ça va être des cours l'après-midi, donc les examens vont se donner ou ça va être des examens en classe », bien là, peut-être que l'intelligence artificielle peut devenir là une aide intéressante pour les enseignants.
Vous avez mentionné l'intelligence artificielle. Je trouve ça super intéressant parce qu'on dirait qu'on l'associe souvent, l'intelligence artificielle, aux élèves qui trichent à cette heure, qui utilisent l'intelligence artificielle pour écrire leurs textes, pour faire les... C'est rare qu'on réfléchisse à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants. Puis cet exemple-là, pour créer des alternatives d'un même examen A qui a été préparé par l'enseignant en disant « Hey, peux-tu changer un peu les affaires pour pas que ça reste les mêmes réponses? » Ça se fait-tu beaucoup, ça, déjà? Est-ce que les enseignants au Québec apprennent déjà à travailler avec l'intelligence artificielle?
Tranquillement, pas vite, on avance là-dessus. Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'étais encore dans une école. On est en train de travailler en CAP, donc en communauté d'apprentissage. Puis, on parle de l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture chez les tout-petits de première année. Pendant que les enseignants discutent, moi, je demande à l'intelligence artificielle, « OK, es-tu capable de me sortir une planification première année en donnant plein de détails? » Et au bout de la ligne, elle me sort une planification. Moi, je donne ça aux enseignants. Je dis, « Regardez, vous pouvez vous baser là-dessus. » L'intelligence artificielle, c'est basé sur le programme de formation, sur la progression des apprentissages, tous les documents du ministère. C'est basé là-dessus pour nous offrir quelque chose d'intéressant. Fait que les gens disent « Oh, OK, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. » Mais tu sais, plus on va donner des exemples, plus les directions vont aussi l'utiliser pour se montrer comme étant un exemple de ce qui est possible de faire. Bien, ça va donner des idées aux enseignants de le faire. Mais il faut donner de la formation. On peut pas juste dire « Utilisez-le ».
Ben non.
Pour donner de la formation, libération, besoin d'argent, besoin de personnel.
Bien, exactement, c'est là que je m'en allais. C'est peut-être, sans dire que c'est la solution magique face au manque de personnel, ça peut être un tabarouette de bel outil là, de faire comprendre aux enseignants à quel point ça peut permettre d'économiser du temps. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être peut-être réfractaires à ça au départ. Là. Puis j'allais dire chez les plus anciens, mais même chez les jeunes, il y en a. Moi, j'ai encore de la misère des fois là, à utiliser l'intelligence artificielle. J'ai de la misère à faire confiance à l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, on s'entend déjà, c'est tellement développé, c'est rare que ça va se tromper, mais ça arrive. Puis mais malgré cette méfiance-là, cet outil-là a un méchant beau potentiel.
Le potentiel est sans limite, mais comme vous le dites, il faut faire attention. Il faut donner la bonne requête à l'intelligence artificielle. Mmh. Puis il y a encore des biais, il faut faire attention à certaines choses, mais ça peut nous soulager d'une grosse partie de travail qui est très technique, très administratif. Je vais utiliser le bon... c'est pas le bon mot, mais je vais utiliser celui-là. Pendant ce temps-là, ben, on peut focusser sur le besoin de l'élève, la gestion de classe, à la place de dire « OK, je vais mettre 4 heures à faire de la planification. » S'il peut nous faire une base, puis qu'on a juste à réviser, apporter des petits ajustements, on sauve un temps fou, puis c'est tant mieux autant pour les enseignants que pour les directions.
André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, un gros merci, on se reparle bientôt.
Ça fait toujours plaisir.
Au retour de la pause, on jase musique, l'Institut de la statistique du Québec, avec des données de Luminate Data qui nous est arrivée avec les artistes, les groupes québécois les plus écoutés à l'heure actuelle. Puis je veux qu'on joue un jeu ensemble, 88-971-102. Essayez-vous donc avec le top 3, tiens, les artistes 1, 2 et 3, artistes et ou groupes les plus écoutés au Québec dans la dernière année, 88-971-102 par texto. D'après moi, vous allez au moins avoir le premier. Surprenez-moi pour les 2 et 3. Puis si vous avez le goût d'y aller avec un top 5 puis un top 10 parce que vous avez du temps pendant la pause, gâtez-vous aussi. On va faire le tour dans les prochaines minutes dans le Point de Max. Il est 10h36. Le Point de Max.